Bonjour, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, dans le cadre de l'opération Vive le train avec France Bleu, on découvre l'histoire du viaduc Garabit dans le Cantal. Ensuite, nous rencontrons une aventurière qui a traversé une partie de l'Australie pour attirer l'attention sur la cause des chevaux sauvages du pays. Et on va terminer par déguster une bonne bouillabaisse. Mais avant tout cela, place à l'actu de ce lundi 13 mai. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Tournier, bonjour à tous, bonne semaine.
On va entendre le témoignage d'un jeune jeté à la porte par ses parents parce qu'il est homosexuel.
Plus de la moitié des personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres subissent une forme d'agression au cours de leur vie.
Pour briser un tabou, le monde du football semble bouger un petit peu, Thomas Séchier.
Oui, avec un brassard arc-en-ciel qui sera porté par les capitaines et les arbitres vendredi en Ligue 1 et en Ligue 2.
La campagne officielle des élections européennes a commencé ce matin.
Officielle ou pas, ça change quoi, Nicolas Ballu?
Ça va être le grand rush des politiques qui vont faire le sprint pour attirer l'attention des Français.
C'est la période de déclaration d'impôts à faire sur Internet.
Sauf si on n'a pas Internet. Et si on a Internet et qu'on déclare avec la version papier, pas d'amende encore pour l'instant.
Une semaine par an, c'est la semaine du pain.
Même si on en mange toute l'année, mais les boulangers se décarcassent pour l'occasion.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farouf sur France Bleu.
Le Refuge, qui soutient les jeunes victimes d'homophobie, lance un nouvel appel à la générosité publique cette semaine. Les dons permettent par exemple de loger des jeunes qui sont rejetés par leur famille.
C'est le cas de ce jeune de Perpignan de 21 ans qui vit avec d'autres victimes dans un appartement de l'association. Anthony vous a raconté son histoire, Thibault Lefebvre.
Le calvaire d'Anthony commence à sa majorité quand il présente son premier petit ami à sa famille.
C'était des insultes tous les jours en fait. T'es qu'un sale pédé, t'es qu'une sale pute. Vous avez votre frère qui vous regarde avec un grand sourire et qui vous dit « je n'ai pas envie que tu me fasses des attouchements ». Ma mère m'avait collé une paire de claques. Si je l'ouvrais, c'est « ouais, tu l'as cherché, machin ». Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste cherché qu'on me donne de l'amour.
Des insultes, des coups, sans explication. Un soir, en rentrant du travail, le jeune homme retrouve son lit et ses affaires au fond du garage.
Le garage, déjà, c'était un garage de 20 mètres carrés. Quand vous avez la porte cassée et qu'il vous manque une vitre, vu qu'il fait froid, vous essayez de calfeutrer la vitre comme vous pouvez et que vous tombez malade au fur et à mesure et que votre médecin vous dit « c'est pas normal que tu sois malade ». Et que vous osez pas même à votre médecin de dire « voilà, je dors dans le garage ». J'avais honte parce qu'en fait, je mérite pas ça.
6 mois plus tard, la situation dégénère encore un peu plus. Anthony est jeté de chez lui.
Les derniers mots que j'échange, c'était le jour où je suis parti. Votre propre mère, vous essayez de lui dire « au revoir maman ». Qu'elle vous regarde, qu'elle vous sort. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Tu peux mourir. En fait, vous avez tout compris.
Anthony a depuis définitivement coupé les ponts avec sa famille. Il vit désormais à Nice, où il vient de trouver un emploi dans la restauration.
Thibault Lefebvre et la situation d'Anthony, qui n'est pas un cas isolé. Près de 6000 homosexuels ont contacté l'année dernière le refuge. C'est 25% de plus qu'en 2017.
La prochaine journée de championnat de Ligue 1 de football sera dédiée à la lutte contre l'homophobie et un documentaire sur l'homosexualité dans le football, diffusé demain soir sur France 2.
Ça commence à bouger dans le monde du foot, Thomas Séchier.
Oui, ça bouge avec ces 3 mesures annoncées ce matin par la Ligue et notamment ce brassard arc-en-ciel, couleur de la communauté LGBT, qui sera porté pour la première fois ce vendredi sur tous les terrains de Ligue 1 et Ligue 2, pas par les joueurs, seulement par les capitaines, les entraîneurs et les arbitres. La Ligue annonce aussi que les référents supporters de chaque club vont être sensibilisés à la question et puis des livrets pédagogiques vont être distribués aux apprentis footballeurs dans les centres de formation.
Mais l'homophobie dans le sport et en particulier dans le foot, ça reste un tabou.
Ah, bien sûr, il n'y a qu'à voir le nombre de joueurs et de joueuses en activité qui ont fait leur coming out dans le monde. Zéro, le compte est vite fait. C'est impossible d'afficher son homosexualité dans le football, c'est pas moi qui le dis, mais Olivier Giroud, l'attaquant des Bleus, de peur d'être moqué par les supporters, mais aussi par ses propres coéquipiers.
Est-ce qu'on peut imaginer durcir les sanctions dans les stades?
Alors pour l'instant, on est plus sur de la pédagogie que sur de la répression. Les termes PD ou tarlouse, on les entend depuis des années dans les stades et c'est moins sévèrement puni pour l'instant que le racisme. C'est-à-dire, la semaine dernière, le Racing Club de Lens a écopé d'une amende de 50 000 euros pour des chants homophobes. C'est du jamais vu.
Ça bouge dans le monde du foot. Thomas Séchier, le détail des mesures anti-homophobie dans le foot sont à retrouver sur francebleu.fr.
Les deux otages français et l'otage sud-coréenne libéré dans le nord du Burkina Faso ont été accueillis ce matin à leur descente d'avion par le président Emmanuel Macron.
Une cérémonie d'hommage national se tiendra demain aux Invalides pour saluer la mémoire des deux militaires morts durant l'opération opérations de libération des otages.
La campagne officielle pour les élections européennes a commencé ce matin, avec notamment la diffusion de spots télé des 34 listes.
Un moment attendu par les petites listes qui ont du mal à se faire remarquer. Fabien Randrianarisoa.
Allons Enfants est un jeune parti. Tous ses candidats ont entre 18 et 30 ans. Chaque euro compte. Sophie Caillot, la tête de liste, attend beaucoup du spot télé financé par l'État.
On va avoir donc un clip de campagne qui sera tourné par les services de France Télévisions avec le soutien du CSA. Et ce sera deux fois un clip de campagne d'une minute trente, plus un petit spot de 30 secondes, donc dans lesquels, pour nous, il faut vraiment être percutant parce que c'est notre seul temps d'antenne qu'on est sûr d'avoir.
Le reste de la campagne, l'impression et le collage des affiches sur les panneaux électoraux, par exemple, sont à la charge des partis. Faute de militants et d'argent, la liste Allons Enfants ne pourra pas être présente partout.
Contrairement aux gros partis, on n'aura pas les moyens de faire appel à une société qui va elle-même coller les affiches devant les bureaux de vote. Donc on a fait ce matin un bel Excel de répartition des secteurs pour aller coller. Et donc c'est tous nos membres qui vont s'inscrire dans les différents créneaux sur les 12 jours pendant lesquels on a le droit de coller pour essayer de couvrir le plus de secteurs possible.
Chaque liste doit aussi fournir et distribuer les bulletins de vote dans toute la France. Impossible pour les petites formations comme le Parti Pirate, qui a lancé l'opération Partage Taramet pour que les militants impriment leur bulletin de vote. Pierre Bessac est numéro 4 sur la liste.
Vu les délais très serrés et l'utilisation de papier 70 grammes, qui est beaucoup plus rare et difficile à trouver, on n'a pas pu alimenter les préfectures. Et aussi, vu nos faibles moyens financiers, il faudrait 270 000 euros pour imprimer des bulletins pour toute la France. Et encore, en desservant uniquement les bureaux de vote, pas en étant dans les enveloppes distribuées aux électeurs.
Pour les petits partis, la campagne sera donc numérique ou ne sera pas une inégalité démocratique pour Hélène Twitt qui mène la liste animaliste.
On nous dit oui, mais finalement vous êtes crédité de peu, mais c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce que c'est pareil, plus on vous monte, plus vous êtes connu des électeurs, donc potentiellement plus vous avez de chances d'avoir des voix, alors qu'évidemment moins on vous voit, moins on vous connaît, moins on risque de voter pour vous. C'est d'une évidence absolument claire.
Au-delà de la barre des 5% pour obtenir un eurodéputé à Bruxelles. Aucune de ces petites listes ne peut se permettre de faire moins de 3%, sans quoi les dépenses de campagne ne seront pas remboursées par l'État.
Et on a découvert l'opération Partage Taramet avec le prix du papier, les petites listes en campagne. Fabien Randrianarisoa.
La campagne dite officielle débute aujourd'hui. On vote dans deux semaines, le 26 mai.
C'est une campagne express. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer d'ici le 26 mai, Nicolas Bellamy?
D'abord, une accélération. Le taux de participation pourrait ne pas dépasser les 40%, et ceux qui vont voter font leur choix de plus en plus tard, surtout pour les européennes. Donc c'est vraiment au dernier moment que tout se joue. Et 15 jours, c'est court pour faire la pédagogie sur l'Europe, capter l'attention et susciter l'adhésion. Donc les happenings vont se multiplier. Il est possible qu'on entende assez peu parler de l'Europe, d'autant que la plupart des partis vont transformer ces élections en référendum pro ou anti-Macron.
Et vous êtes en train de nous dire que pour la pédagogie, autant aller sur francebleu.fr.
Voilà, exactement. La campagne se structure plus ou moins autour du duel Rassemblement National, La République en Marche. Emmanuel Macron et Marine Le Pen mettent en scène cet affrontement à l'échelle nationale et européenne entre les fédéralistes et les nationalistes. Cet affrontement, il sera télévisuel avec un rendez-vous, un débat uniquement entre les deux têtes de liste, Nathalie Loiseau et Jordan Bardella. Ce sera mercredi. Il y aura bien sûr d'autres débats et les autres partis refusent cette polarisation, à commencer par les Républicains ou la France Insoumise. Enfin, regardez ce qui est en train de se passer. Tous les poids lourds des partis se jettent actuellement dans la campagne. Même Emmanuel Macron pourrait participer à un meeting au dernier moment.
Merci Nicolas Ballu.
Le congrès de la CGT se tient toute la semaine à Dijon et Philippe Martinez, qui compte maintenir une ligne contestataire, doit être réélu malgré un bilan mitigé.
En deux ans, la CGT a perdu sa place de premier syndicat au profit de la CFDT, dans le secteur privé comme dans le secteur public.
Le couple Balkany est une nouvelle fois devant la justice. Le maire, les Républicains de Levallois-Perret et son épouse, qui est aussi sa première adjointe, sont poursuivis pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.
Ils sont notamment soupçonnés d'avoir dissimulé à l'administration fiscale un patrimoine d'au moins 13 millions d'euros. Alors avant le procès qui débute tout à l'heure, dernier passage par Levallois-Perret, où le couple a encore beaucoup de supporters, Farida Noir.
Nicole est arrivée à Levallois en 1983, l'année où Patrick Balkany est élu maire pour la première fois. 6 mandats plus tard, et même s'il est cerné par les affaires, elle le soutient.
regarder l'environnement, nous avons beaucoup d'espaces verts. C'est vrai qu'il y a des a priori sur le maire, hein, sa personne, disons. Mais on vit dans un endroit qui est quand même assez exceptionnel dans la couronne de Paris.
Avec un budget de 200 millions d'euros de fonctionnement annuel pour la ville, les Balkany gâtent leurs administrés. Alors Pierre, papa de deux enfants, veut bien fermer les yeux sur leurs démêlés judiciaires.
Ils font des classes vertes, ils ont des sorties dans les musées. Enfin, l'éducation est vraiment bien encadrée, je trouve, sur les casseroles judiciaires du couple Balkany. Pour l'instant, il est présumé innocent avant d'être jugé coupable. Donc.
Ça ne ternit pas leur image.
Non, pas du tout. Je revoterai pour lui.
Boîte de chocolat, bouteille de champagne, deux fois par an pour les personnes âgées. Mais François reste insensible à la générosité de son maire.
Comme il y a beaucoup de personnes âgées dans la ville, elles sont quand même flattées parce qu'on s'occupe d'elles. Donc ça, bon, les gens lui pardonnent finalement. Ils le réalisent. Mais de plus en plus difficilement quand même. Hein. Les marges avant, c'était bon, premier tour. Même sa femme était réélue en même temps que lui. Elle s'est quand même fait battre la dernière fois. Donc c'est un petit peu plus difficile.
Le procès des Balkany devrait durer jusqu'au 20 juin.
Les Balkany, Patrick et Isabelle, vue de Levallois-Perret.
13h11 sur France Bleu, la suite du Nord en France, c'est du pain et c'est le train. C'est la semaine du pain et aussi celle du train avec la SNCF qui ouvre ses portes. C'est aussi l'heure de la déclaration d'impôt qui doit se faire sur Internet désormais, sauf quand on n'a pas Internet. Et pour la déclaration papier, la date limite c'est le 16 mai, c'est-à-dire en fait jeudi.
Internet peut faire peur à certains et notamment les personnes âgées qui se rendent dans les maisons de services publics. Comme à Mézières-en-Brenne, Jérôme Collin.
Leur feuille d'impôt à la main, une soixantaine de personnes défilent toute la journée pour avoir des renseignements. C'est le cas de Gérard, il veut savoir s'il doit déclarer en ligne.
Parce que j'ai pas d'ordinateur, c'est pas évident pour nous. Des jeunes, il n'y a pas de problème, ils sont nés avec ça, mais nous, c'est pénible, quoi. Personnellement, oui, je regrette, hein, parce qu'avant, bon, on recevait les papiers, on déclarait, on renvoyait, et puis ben voilà, quoi.
Pour ce retraité indrien, pas de souci, il pourra faire sa déclaration par papier. Les impôts vont être tolérants cette année. Mais en théorie, si vous avez Internet, vous devez déclarer en ligne. Béa a donc besoin d'aide.
Il faut bac plus 52, hein. C'est même plus bac plus 2. Hein. C'est stressant, quoi. Parce qu'on a toujours peur de faire une bêtise, de se revoir demander de l'argent. Et en fait, j'ai bien fait de venir, parce que si je l'avais fait toute seule, je me plantais. Et on m'aurait redemandé des sous, et ce que je n'aime pas du tout.
Marina Boulet est animatrice à la Brain Box, elle donne un précieux coup de main en ce moment.
On va se connecter pour faire la déclaration en ligne.
Faut que j'aille sur ma messagerie. Alors, la messagerie d'Alexis ?
Non. On va revenir. Cette année, je suis surprise, il y en a de plus en plus qui, du coup, veulent franchir le pas pour le faire en ligne.
À noter qu'une amende de 15 euros est prévue pour ceux qui ne feront pas leur déclaration en ligne alors qu'ils le peuvent. Mais cette amende ne s'appliquera qu'à partir de l'an prochain.
C'est bien noté. Dans une maison de service public à Mézières-en-Brenne, à l'est de Châteauroux, avec Jérôme Collin de France Bleu Berry.
C'est la semaine du pain, l'aliment quasi incontournable des repas des Français.
Les artisans sont appelés à organiser des manifestations autour de leurs produits phares. D'ailleurs, on va découvrir cette semaine l'origine de la baguette dans une heure en France, demain ou après-demain, dans la semaine en tout cas.
Demain ou après-demain,
oui, c'est ça.
Révisez-vous.
Mais avant, eh ben justement, on révise le pain et la baguette, Antoine Geoffin.
Chaque jour, 12 millions de Français poussent la porte d'une boulangerie. Tout le monde, ou presque, mange régulièrement du pain. 98% des Français le mettent sur leur table, selon la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Au total, 6 milliards de baguettes sortent des fournils chaque année. On a cette idée que le pain fait grossir, mais c'est faux, à condition, bien sûr, de ne pas y associer une tablette de chocolat pour son encas. Le pain, à la base, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Tout dépend de la variété, mais il apporte des fibres, des glucides, peu de matières grasses, il y a aussi du fer, du potassium et des protéines. Un aliment sain, remis parfois au goût du jour, gourmand, sucré pour l'apéritif et même sans gluten pour les intolérants. Les boulangeries qui proposent ce produit ne sont plus si rares dans l'Hexagone.
Bon, donc je vous le dis, la baguette ce sera mercredi.
On vous l'a soufflé parce que vous n'en saviez rien du tout. La semaine du pain, Antoine Geoffin.
Marseille ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine.
Et en plus, c'est l'OL qui enfonce l'OM au stade Vélodrome où c'était chaud hier soir, dans les tribunes et à l'extérieur du stade.
On a l'habitude cette année entre Montpellier, Lille, Saint-Etienne, Lyon cette année maintenant.
C'est Lyon, ça reste Lyon, notre plus grand rival qui vient gagner sa place de Ligue des Champions que nous on recherche depuis le début de saison. À l'origine, ce match-là, ça devait être une finale. Là, c'est pas une finale, ils viennent chez nous. C'est même pas déception, c'est même pas... c'est humiliation.
Lyon se rapproche de la Ligue des Champions que Lille va disputer à coup sûr la saison prochaine. On va retourner à Marseille tout à l'heure, mais ça sera pour se mettre à table avec une bouillabaisse.
Et avant, on va prendre le train avec la SNCF qui ouvre ses portes toute la semaine avec son opération Vive le train.
Comme dit la directrice de la communication de la SNCF, autant les Français aiment nous détester, autant ils sont attachés à la SNCF.
On va visiter le viaduc de Garabit dans le Cantal avant de suivre le périple à cheval d'une Française en Australie.
Et donc la bouillabaisse avec cuisine et vin de France. Voilà la météo du jour.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.